Radio Prague, les informations.
75% des Tchèques soutiennent la dissolution du Parti ouvrier. Un skieur tchèque a été tué dans une avalanche en Italie. Et à Vancouver, en ski de fond, Lukáš Bauer échoue en skiathlon. Un sondage publié ce dimanche fait état d'un large soutien de l'opinion publique à la dissolution du parti d'extrême droite, le Parti ouvrier. 75% des personnes interrogées se sont ainsi exprimées en faveur de la décision de la Cour constitutionnelle. 69% considèrent que le parti représente une menace pour la démocratie. Le Parti ouvrier, formation d'extrême droite, a annoncé ce samedi qu'il participerait aux prochaines élections législatives sous un nouveau nom, le Parti ouvrier pour la justice sociale. Trois personnes, dont un touriste tchèque et deux Italiens, ont été tuées samedi dans des avalanches dans le Trentin, Haut-Adige et le Val d'Aoste, en Italie, ont annoncé samedi les médias italiens. Dans le Val d'Aoste, un skieur tchèque de 44 ans, résident à Prague, qui avait été déposé avec tout un groupe par un hélicoptère sur un sommet à quelques 3000 mètres d'altitude, est mort, bien qu'il ait été rapidement sorti de la neige par ses compagnons. Une plaque d'une dizaine de mètres de large s'est détachée sous ses pieds, et malgré l'arrivée rapide des secours, il n'a pas pu être ramené à la vie. Le mot d'ordre de grève de 4 jours lancé par les pilotes de la Lufthansa pourrait conduire à l'annulation d'une trentaine de vols entre la République tchèque et l'Allemagne la semaine prochaine. 14 vols aller-retour sont assurés chaque jour entre Francfort et Prague, ainsi qu'un vol aller-retour avec Munich, soit 30 vols en tout vers l'Allemagne. La grève devrait être suivie par 4500 pilotes, perturbant considérablement les liaisons aériennes entre l'Allemagne et le reste du monde à partir de lundi. Le fondeur Lukáš Bauer n'a pas remporté de médaille dans le skiathlon de samedi au JO de Vancouver. Il a fini en 7e position après une collision en fin de parcours. D'après le skieur tchèque, les conditions météorologiques n'ont pas joué non plus en sa faveur. Bauer a déjà remporté le bronze dans le 15 km libre en début de compétition. Prochain rendez-vous important pour le sportif tchèque, le 50 km prévu le 28 février, une discipline dans laquelle il excelle. Après ses deux victoires sans faute contre la Slovaquie puis contre la Lettonie à Vancouver, l'équipe de hockey sur glace tchèque affronte les Russes ce dimanche soir, 12h heure locale et 20h temps universel. Un affrontement entre deux équipes rivales qui a toujours une coloration particulière pour des raisons historiques et sportives. Face aux Russes, l'entraîneur tchèque a décidé de ne pas changer la composition de l'équipe victorieuse des Lettons vendredi, du moins pas en début de match. Les Tchèques sont au premier rang du groupe B avec 6 points devant la Russie, qui en possède 4 après leur étonnante défaite contre la Slovaquie. Avec encore deux autres matchs ce dimanche qui verront s'affronter les très grands de ce sport, Canada, États-Unis et Suède-Finlande, c'est un Bloody Sunday qui s'annonce, comme le signale très justement un blogueur du Monde.fr. Résultat du match lundi sur nos ondes à 8h30. Ou sur notre site www.radio.cz. Lundi, jour de fête des pêtres, le temps sera couvert avec des éclaircies par endroits. Les températures devraient rester au-dessus de la barre des zéros et aussi entre 2 et 6 degrés. Fin du flash info, mais restez avec nous tout de suite, on se retrouve dans la rubrique culture. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture sans frontières. Andy Warhol, le pop art, la factory, New York, la drogue, la galère et l'art. Ces mots évoquent tout de suite une atmosphère très particulière, celle des 60s et des 70s. Acteurs, actrices, musiciens, libres penseurs, drag queens, mais aussi paumés, toxicaux et dépressifs, tout ce petit monde gravitait autour du pionnier du pop art qui, d'anonyme, en faisait des superstars, selon sa propre terminologie. Parmi ces superstars, l'actrice Viva, et dans son entourage direct, un Français, son mari, Michel Audert, précurseur du vidéo art. Ses œuvres, véritable anthologie de ces années folles et décadentes, sont à l'heure actuelle présentées au Centre d'art contemporain DOX, à Prague, dans le cadre d'une exposition intitulée « Chelsea Hotel, les fantômes de la bohème ». Avec Michel Audert, nous évoquerons donc dans cette émission cette période incroyable où tous les grands noms de l'art se sont côtoyés dans cet hôtel si spécial de Manhattan, mais également les débuts de la vidéo. Michel Audert vit depuis ses ces années-là à New York, mais il est né en France. En 2007, il a réalisé un film mémoire où, pour les besoins du montage, il s'est accordé une sorte de retour aux sources qui n'en était pas vraiment un.
Je suis donc allé à Gif-sur-Yvette pour faire semblant d'être intéressé, de revoir la maison où j'étais né, comme les gens font quand ils racontent l'histoire de leur vie. En fait, j'en avais rien à foutre, mais c'était toujours intéressant, même en même temps. Le film s'appelle The Feature. Comme les gens font des films, ils appellent ça des features à Hollywood. Et moi, comme je ne fais jamais de features, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, je l'ai fait un peu comme un film, donc on l'appelait The Feature.
Alors, c'est un travail un peu titanesque quand même, parce que d'après ce que j'ai pu lire, The Feature, c'est 5000 heures de...
Ouais.
De films sur 40 ans, finalement, que vous avez compacté en 2-3 heures.
Ça devrait pas être un feature, ça devrait être appelé un trailer. Mais j'étais pas assez vite d'esprit pour l'appeler le trailer. J'ai eu déjà un peu de mal pour dire aux gens que je voulais appeler le feature. Mais en fait, c'est un trailer tous mes films.
Un trailer de 3 heures.
Voilà, exactement.
Vous avez mis à la fois des éléments fictifs et réels. C'est un peu à la manière de l'autofiction en littérature que vous envisagez au film ?
Très bonne question, très bonne réponse. C'est exactement ça. En fait, je pense que la manière dont les films sont faits maintenant avec... Et moi que je fais depuis longtemps, mais avec les caméras sont devenues de plus en plus petites et l'outil lui-même devient plutôt, c'est plutôt près du roman que du film ou de la télévision. D'ailleurs, ça se voit parce que j'ai jamais été accepté vraiment par le film et par la télévision et c'est le monde de l'art qui a toujours été intéressé à mes travaux. Bien sûr, je suis un cinéaste à 100%. Mais ça se rapproche plus de la littérature que du cinéma. C'est quelque chose de nouveau, en fait. C'est le 21e siècle, on ne sait même pas ce que c'est que le cinéma. Et ça, c'est juste né il y a 100 ans. Et on croit qu'on connaît tout du cinéma, mais le cinéma, c'est un pouvoir et un projet dans les quelques centaines d'années de maintenant qui sera beaucoup plus... qui sera vraiment différent, hein. Il n'y a pas de problème, c'est sûr. Le film a 100 ans, c'est juste, on sait pas, on n'a même pas compris ce que c'était les images, parce que dès qu'on voit des images, on pense que c'est la réalité, on n'arrive pas à s'en sortir.
À l'époque, quand vous avez commencé à faire de la vidéo, c'était un peu les balbutiements de la caméra vidéo. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cet instrument-ci plutôt qu'un autre? Parce que je crois savoir qu'à l'époque, vous dessiniez plutôt à la photo.
Je faisais des films depuis longtemps, j'avais abandonné la photo dans les années 65, complètement même. Pour faire que des films, et je pensais peut-être que j'allais faire des films plutôt comme Godard, des choses comme ça. J'étais plutôt intéressé à trouver de l'argent, mais j'étais assez déçu et frustré pour essayer de trouver des sommes d'argent pour pouvoir tourner ces films. Et donc je me suis découvert Warhol et d'autres filmmakers indépendants. Et ce qui m'intéressait après mes déboires pour pouvoir trouver de l'argent avec des idées et que je n'arrivais pas à trouver de l'argent, je voulais faire juste des films tout de suite et ne pas songer à demander à d'autres personnes de la lumière pour le son, une équipe, ainsi de suite. Alors je cherchais un outil qui était beaucoup plus... Warhol utilisait déjà un qui s'appelait Oricon, qui était une bobine de 16 mm de 30 minutes avec du son optique qui était autour, et quand on développait la bobine, le son était déjà devenu... C'est pas un son de très bonne qualité, mais ça suffisait. Alors donc, je m'apprêtais à faire des films avec ça. Et puis quand la vidéo est arrivée en 1969, je faisais un film qui s'appelait Cléopâtre, qui avait été produit avec une chance, quand j'avais reçu de l'argent. J'ai trouvé ça, et pour moi, je l'avais déjà inventé dans ma tête. C'est ce que je cherchais, une machine comme ça qui est arrivée. Alors tout de suite, c'était ma machine, c'était comme un crayon, on pouvait écrire tout de suite, on voyait des choses.
C'était la bonne rencontre au bon moment, finalement.
Oui, oui. Et ou plutôt la mauvaise, parce qu'en fait, ça m'a remis en arrière de 10 ans, parce que personne n'était intéressé par mes idées en vidéo. Et les gens ne voulaient pas voir la vidéo à cette époque-là, parce que c'était en noir et blanc, c'était avec du grain, le son n'était pas très bon. En fait, l'esthétique avait juste changé en 70. Tout le monde avait commencé à voir une télévision en couleur. Pour eux, l'esthétique, c'était la couleur et une meilleure réception de l'image. Et en fait, la vidéo portable, c'était noir et blanc, une mauvaise réception de l'image qui continuait. Même avec des gens qui étaient assez intéressants, ils étaient assez déçus par le résultat.
Justement, vous avez filmé un peu donc votre entourage, un peu comme un carnet de bord, hein, un carnet intime ou un journal intime. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez le sentiment que vous filmiez quelque chose qui allait devenir historique, puisque finalement, vous filmez ces personnes comme Andy Warhol et tous ces artistes qui étaient en fait autour d'Andy Warhol. Est-ce que vous aviez le sentiment que vous filmiez quelque chose d'historique à l'époque ou pas du tout, finalement, c'était vous filmiez juste votre entourage comme ça?
Vous avez répondu à ma question? Pas du tout, je filmais juste mon entourage comme ça. Il n'y avait aucune idée que... Et d'abord, je ne filme jamais avec l'idée. Les gens qui sont engagés dans mes films, je n'ai jamais l'idée parce qu'ils vont être quelqu'un plus tard ou comme ça. C'est juste des gens qui vivaient autour de moi. Et il se trouve que c'était Andy Warhol qui avait une relation très privée avec ma première femme. Il faisait partie de la famille, dans un sens. C'est vrai que Warhol était un peu plus, mais il n'est pas vraiment filmé. Toutes les choses que j'ai de Warhol sont d'une manière critique dans les films. Les gens ne le voient pas parce qu'ils ne regardent pas les films, mais s'ils regardaient mon film correctement, ils verraient que c'était pas un document parce que c'est Warhol. C'est absolument critique du début à la fin.
Et pourquoi avoir choisi justement de choisir de filmer votre entourage et non pas de filmer totalement de la fiction, puisque vous disiez que vous vouliez filmer à l'époque, comme Godard le faisait, des films de fiction simplement.
Mais parce que la réalité c'est la fiction. Le monde et les gens autour de moi sont mes décors et les gens qui me parlent sont mes acteurs. Et que j'ai pas besoin d'engager des acteurs et de faire de la lumière pour faire une espèce d'idée. C'est le montage qui le fait. Si je veux quelqu'un qui pleure ou qui rit ou ainsi de suite, c'est pour ça que j'ai filmé tout le temps et j'ai toutes ces choses tragiques et très drôles et intéressantes et belles et pas belles. Et j'ai ça dans ma bibliothèque personnelle et je les ressors et je fais des films comme Hollywood. J'ai même une voiture qui brûle ou un truc comme ça, si on veut.
C'est très shakespearien finalement. Le monde est une scène et nous sommes tous des acteurs dedans.
C'est toujours ce que j'ai pensé naturellement en fait. C'est ce que j'ai vu tout de suite.
Vous arriviez à disparaître derrière la caméra, à faire oublier aux gens que vous aviez une caméra? Ou est-ce qu'ils étaient intimidés?
Les gens que j'utilise sont des gens qui n'ont pas intimidés, parce que sinon je ne les filme pas, parce que ça ne m'intéresse pas de filmer des gens qui sont intimidés, qui me regardent l'air intimidés. Donc c'était des gens engagés qui comprenaient ce que je faisais ou s'ils ne comprenaient pas, qui acceptaient de dire quelque chose. Alors c'est toujours entre la fiction et la réalité, parce qu'ils savent que la caméra est sur eux. Mais en même temps, ils ont un côté très naturel. Et c'est pour ça que j'ai commencé à cette époque-là, avec un groupe extraordinaire, qui était le groupe d'Andy Warhol, des années 60, 70, entre 60 et 70, qui comprenait Viva, Louis Walden, Ondine, Taylor Mead, et tous ces acteurs étaient des acteurs libres, qui souffraient un peu parce qu'ils n'étaient pas vraiment aidés par Warhol, qu'on leur donnait jamais d'argent, mais qui avaient un talent extraordinaire, et qui était beaucoup plus intéressant qu'un acteur hollywoodien. Ils amenaient leurs propres idées sur un fond. S'ils venaient chez moi et qu'on racontait des histoires, Viva était la même chose. Soudainement, il y avait des discussions qui passaient, qui pouvaient parler de politique, de drogue, de tout. En même temps, tout arrivait. Ils avaient un don. Alors les trois premières années au Chelsea Hotel, ça s'est basé un peu sur ce système. Alors de penser que Chelsea Hotel, c'était un endroit où tout le monde était des stars. Personne ne savait qu'on était des stars, tout pour commencer. Et en plus de ça, tout le monde essayait de survivre au jour le jour, sérieusement.
Juste pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'était le Chelsea Hotel exactement?
C'est un hôtel qui est assez particulier, surtout dans les années 70, où par hasard, je crois, mais aussi le patron de l'hôtel avait un don pour attirer les artistes et aussi oublier quelques mois de ne pas pouvoir payer ses loyers. Il fallait quand même lui plaire et qu'il soit intéressant. Tout le monde ne pouvait pas dire on est comme ça. Il y avait toujours une sélection. On ne sait pas comment ça marche, mais disons que moi je suis très bien rentré dedans à cause de ma femme qui était très connue, qui était appelée donc par Warhol Superstar, qui était un mot qui n'était pas donné à tout le monde, mais qui était inventé juste dans le système. C'était pour une sorte de nouveau Hollywood underground.
Le réalisateur Miloš Forman a passé 2 ans aussi au Chelsea Hotel. Est-ce que vous l'avez connu à l'époque?
Je rencontrais, bien sûr. Ouais. On rencontrait un peu tout le monde parce que l'image de Viva et la mienne était commençait à monter aussi, mais l'image de Viva était que tout le monde voulait la rencontrer de toute façon. parce qu'elle était une personne extraordinaire. Hein. J'étais au centre de tout ça, en fait. Donc oui, j'ai rencontré Miloš. Je ne le connais pas bien, mais on sourait, on buvait un coup ensemble.
Comment est-ce que vous expliquez ce bouillonnement créatif, intellectuel, finalement, de cette époque-là? Concentré comme ça à un endroit.
Moi, je ne suis pas un historien, ou je ne sais pas.
C'est plutôt votre ressenti.
C'était l'endroit où on pouvait aller, je le savais. D'autres, les gens le savaient. Et il y avait quand même, je suis sûr, qu'on pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas habiter là. Le patron du Chelsea Hotel pensait que j'étais un noble français.
Parce que vous étiez français?
Oui, il pensait que j'avais devenu d'une famille. Alors, ça l'intéressait de savoir. Et puis ensuite, j'ai quand même fait un film qui était dans le New York Times, qui a vraiment. Alors, ça a aussi impressionné. Alors, on avait notre photo dans le New York Times le dimanche, en 1970. Viva et moi. C'est assez extraordinaire, c'est rare. Et à que je pense, c'était une espèce de chimie qui est arrivée.
Dernière question, je suppose que vous vous baladez toujours avec votre caméra. Est-ce que vous avez filmé quelque chose ici à Prague?
Oui, j'ai filmé. J'ai filmé quelques lions sur en face de mon des lions sculptés en face de ma chambre de l'hôtel. Il y a une très belle coupole avec qui est assez détruite, avec des pigeons qui habitent dedans. J'ai fait un petit film sur ça. Je crois que j'ai filmé d'autres. Non, je crois que j'ai filmé tous les jours. Il neigeait un peu, il y a du soleil et tout. Alors c'est cette image qui est du 19e siècle. Je ne vois pas trop le monde moderne. On voit un peu la ville derrière avec la neige. Et cette coupole est rouge, extraordinairement très belle. Très, très extraordinaire.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.
C'était donc l'artiste vidéo français Michel Auder qui, comme vous l'avez compris, a séjourné au Chelsea Hotel et a fréquenté le groupe qui gravitait autour d'Andy Warhol dans les années 60 et 70. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
For those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. All of them jiving around.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc. Jarka Gregorova.
La ville de Rocher de Hrubaskala, Hruboskalsko, est située à environ 6 km au sud-ouest de la jolie ville pittoresque de Turnov, dans la région du Paradis tchèque, la plus ancienne zone naturelle protégée en République tchèque. Depuis octobre 2005, elle est classée parmi les parcs géologiques de l'UNESCO. Les centaines de tours de grès de la région de Hruboskalsko peuvent atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur et portent des noms poétiques, comme par exemple l'orchestre, la baguette du chef d'orchestre, le phare, la dent du dragon ou la tour du dragon. Sur la partie nord des parois des tours et des endroits ombragés, on retrouve des fougères, mais les parties sud des parois des tours en grès n'ont que peu de traces de végétation. Les pins, les bruyères, les arbustes d'érelle et de myrtille, résistant aux conditions climatiques extrêmes de la région, sont quelques exemples de la végétation la plus courante que l'on retrouve dans la région de Hruboskalsko. En balade, vous pouvez également découvrir le château Renaissance de Hruba Skala ou le château fort de Wallenstein. Il est possible de visiter la région de Hruboskalsko tout au long de l'année. C'est le paradis de l'escalade, un lieu idéal pour les randonnées pédestres, le cyclisme et le ski de fond. Les lieux sont magnifiques en n'importe quelle saison, mais sous la neige, la région de Hruboskalsko est vraiment féerique. Il est très agréable d'y passer un week-end. Vous pouvez vous y rendre en train ou en voiture, descendre soit dans un hôtel ou au camping 3 étoiles de Sedmihorki, où il est possible de louer un petit chalet avec kitchenette, douche, WC et chauffage. Depuis le camping, on peut partir à travers la forêt en balade, en direction du château fort de Wallenstein, en allemand Waldstein, pierre de forêt. Le château a été construit dans la seconde moitié du XIIIe siècle par la famille Markwartitz, dont le célèbre général Albrecht de Wallenstein sera un des plus illustres descendants. Au fil des siècles, le château a changé plusieurs fois de propriétaire. Pendant quelque temps, il fut le repère de brigands. Après leur arrestation, il fut repris en main par les nobles seigneurs, dont les derniers étaient les Smiżyczki de Smiżyce. Au XVe siècle, Wallenstein fut presque entièrement détruit par un incendie. Un siècle plus tard, les ruines du château sont devenues le lieu de résidence de l'ermite Václav Jendrovenský. Au XVIIIe et au XIXe siècle, il a été reconstruit dans l'esprit du romantisme. Depuis le château fort de Wallenstein, vous pouvez continuer vers le château Renaissance de Hruba Skala, construit vers 1350 par le seigneur Hinek de Wallenstein. Il est resté la propriété de la famille Wallenstein jusqu'en 1821, date à laquelle il a été vendu à l'exa de Arental. Après la Seconde Guerre mondiale, le château a été nationalisé. Il est également possible de rejoindre le château de Hruba Skala depuis Sedmihorki, situé au bas du plateau de Hruba Skala. Le hameau existait déjà au XVe siècle. Le propriétaire du domaine, l'exa de Arental et Antonin Schlechta de l'Omnice nad Popelką, fondèrent en 1841 en ces lieux une station thermale qui a malheureusement disparu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La station était destinée au traitement de l'anémie et on y pratiquait avec succès des traitements par hydrothérapie. D'ailleurs, on trouve toujours sur le sentier d'Angre, menant au château Wallenstein, des sources thermales qui auraient également des effets thérapeutiques. Actuellement, le hameau de Sedmihorki est toujours un endroit charmant où se trouvent une auberge et un hôtel. Pour monter au château de Hruba Skala, on peut prendre un raccourci en passant par le trou de souris. Ce chemin passe entre les rochers, il est vraiment très étroit, mais impressionnant. Non loin du château se trouve le lit d'Adam. Le chevalier František Adam de Wallenstein décida jadis de créer en ces lieux la grotte de Vénus. Et en passa la commande au sculpteur Hladek. Ce dernier sculpta dans la roche un autel dédié à l'amour, à côté duquel se trouvait un couple d'amants nus, debout, surmonté d'une statuette de dieu d'amour. En face se trouve un divan sculpté sous lequel sont couchés deux lions. Cet endroit a souvent été visité par les couples d'amoureux, et c'est pour cette raison que l'endroit fut appelé le lit d'Adam. Actuellement, les reliefs, érodés par le temps et les intempéries, sont presque méconnaissables. En cas de beau temps, il est possible de voir la colline Kozakov et les ruines du château de Trotsky, éloignées seulement à une dizaine de kilomètres du camping de Sedmihorki. En fin de promenade, il est certainement agréable de manger un morceau. Rien de mieux pour se réchauffer en ces journées froides par une bonne soupe aux lentilles avec choucroute. Pour la soupe aux lentilles, il vous faut une tasse de lentilles, un gros oignon, 250 g de choucroute, une cuillerée à soupe de sindou ou de beurre, une cuillerée à soupe de farine, un jaune d'œuf, un huitième de crème, un peu de vinaigre et du sel. D'abord, il faut faire cuire les lentilles lavées jusqu'à ce qu'elles soient mi-tendres. Puis, ajouter la choucroute et l'oignon entier. Ensuite, il est indispensable de préparer le roux. Arroser le roux avec de l'eau vinaigrée, puis faire légèrement bouillir et intégrer dans la soupe. Saler et faire cuire encore un peu. Lorsque la soupe est prête, ajouter la crème et le jaune d'œuf. Alors, comment il faut faire le roux? Tout simplement, il faut faire fondre le sindou ou le beurre et laisser poêler sur une cuillerée de farine. Le roux servirait évidemment à épaissir la soupe. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.